La fête de Pessah. Tout d'abord, je voudrais dédier ce cours. Léon Nishmat, la maman de notre cher fidèle au cours,
oui,
Serge Siboni. Quand on était tout à l'heure à la Levaya. Donc sa maman, c'est Liliane Léa Bat Emma. Une Levaya très émouvante, avec beaucoup de monde et aussi des témoignages, etc. sur cette grande dame. Donc, on était avec Serge. On lui souhaite, bien sûr, beaucoup de courage dans cette épreuve qu'il va traverser. Et bon, c'est comme ça que j'aurais voulu les choses. En tout cas, pendant le mois de Nissan, on n'a pas le droit de s'attarder sur le deuil. Donc, on doit laisser place le plus rapidement possible à la joie. Ben, Yves aussi, hein. Je crois que c'est quand la date? C'est ce soir aussi. Donc, on va dédier aussi le cours de Léon Nishmat. Chai Ben Fradji, le papa de Yves et de Dov, etc. Alors, je me rappelle encore quand ça s'était passé. T'étais à la pitié là-bas. C'était le plein jour de Yudel Nissan. Voilà. Enfin, c'était le lendemain, mais ça s'était passé Yudel Nissan. Comment j'aurais fait les choses, que voilà, c'est des moments comme ça où on n'a pas le droit de trop s'arrêter sur le deuil.
C'est passé dans la nuit.
C'est ça.
Du 10 au 11.
Du 10 au 11.
Ouais, c'était long.
C'est long, c'est long. C'est long. Voilà. Alors, ce soir, c'est aussi une date particulière.
C'est pour Myriam, c'est aussi là.
Alors, le 10 Nissan, c'est la Elula de Myriam.
Ah oui.
Et le 11 Nissan, ce soir, nous sommes le 11, c'est l'anniversaire du Rabbi.
Ah oui.
Nous fêtons le 117e anniversaire du Rabbi. Et donc, on va commencer à lire le psaume 118, puisque nous rentrons dans la 118e année. Donc, c'est la raison pour laquelle on terminera le cours à 21h45. Et j'ai des jeunes qui m'attendent, mes enfants aussi. Enfin, deux qui sont déjà partis. On ira après à la rue Petit pour un Fabric Game. Je voulais pas annuler le cours parce que bon, on a un cours habituel. J'ai pas voulu l'annuler. Mais voilà, pour vous dire que c'est un jour très important. Et j'espère que la particularité de ce jour et le nombre de moteurs qu'on a de mérite avec ce jour va nous permettre de comprendre l'idée de ce cours.
Alors. C'était la révolte des premiers Égyptiens.
Ça, c'est le 10. Oui, d'accord, mais ça, c'était Shabbat Haggadah. Ok. Alors, on y va. La fête de Pessah, en général, est une fête dans laquelle on met l'accent particulièrement sur les enfants. Les enfants. D'autant plus que, enfin, en particulier, c'est bon, Joseph.
C'est passé le 6.
Oui, c'est déjà passé. En particulier, le soir du Seder. Dans lequel nous avons la mitzvah des Gata Levinera.
Il reste encore 300 quelques.
Nous avons la mitzvah de parler donc à nos enfants, au point que toute la Haggadah est construite autour de ce thème. Quel est le thème de la Haggadah? Parler aux enfants. Comment commence la Haggadah? Avec la question de l'enfant, Manishtana. Et comment termine la Haggadah? Elle termine la Haggadah avec les réponses qu'on donne à l'enfant. C'est-à-dire que normalement, c'est pas juste des questions que l'enfant apprend par cœur et qu'il répète. Tout est fait pour que l'enfant reste éveillé et que l'enfant pose des questions. Alors, est-ce que de nos jours, l'enfant comprend les questions qu'il va poser au Manishtana? Je ne sais pas. Mais c'est le concept qui nous intéresse, que à Pessah, c'est une fête dans laquelle on laisse la place particulièrement aux enfants. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter sur un thème majeur dans la Haggadah. On en a parlé dans les années précédentes, maintenant, on va prendre un autre angle. Les quatre enfants. Les quatre enfants qu'on retrouve dans la Haggadah. Alors, ça fait toujours sourire, ces histoires des quatre enfants. Vous savez que toujours dans la Haggadah, ils vous mettent des dessins. Donc, les quatre enfants, qui sont les quatre enfants? On a le sage, le racham, le rachat, l'impie, on a le simplet, et on a le Shionei Delchol, celui qui ne veut pas ou qui ne sait pas poser de questions. Et donc, dans la Haggadah, il y a toujours des dessins. Donc, on va dessiner le sage comme un intello, avec des lunettes comme un intello, tu vois. On va dessiner le rachat avec... c'est intéressant quand on voit la Haggadah au fil des générations, comment on a dessiné le rachat. Donc, il y en a, ils vont dessiner avec une cigarette, parce qu'il y avait des périodes où une cigarette à la bouche, c'était le rachat, d'accord? Après, aujourd'hui, je sais pas ce qu'on mettrait. Aujourd'hui, on mettrait une casquette à l'envers avec du shit dans la bouche.
Un téléphone et des
couleurs. Avec... Il faut voir l'imagination qu'aura le dessinateur. En tout cas, le rachat. D'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il faut trouver comment tu définis l'impie. Donc, le racham, le rachat, le tam, le simplet, celui qui s'est posé de question. Il y a des gens qui pensent, et c'est évidemment une erreur, que l'histoire des quatre enfants, bon, c'est une histoire sympathique pour les enfants. C'est mignon. Quatre enfants. Il y a l'intelligent, etc. C'est mignon. Mais il n'y a pas vraiment de message. Vous allez voir, tout le cours aujourd'hui, on va faire sur ça. On va comprendre à quel point, dans la Haggadah, tout est extrêmement précis. Et que même le positionnement des quatre enfants, qui on a mis en premier, qui on a mis en deuxième, juste de ça, on va prendre des grands messages. Pourquoi je m'arrête sur ça? Parce que la Haggadah n'est pas une simple histoire. Si tu prends une histoire, un roman, alors bon, on t'a mis une phrase avant, une phrase après. Bon, quand c'est romanesque, on s'arrête pas sur chaque détail. Vous savez par qui la Haggadah a été écrite? La Haggadah remonte à l'époque de la Gemara. Alors après, il y a eu des ajouts avec le temps. Parce que la Haggadah, on ne sait pas exactement qui l'a écrite, mais on sait que la première version de la Haggadah remonterait depuis l'époque de la Mishnah. Donc ça veut dire depuis l'époque du Talmud. Juste après, à la fin de l'époque de la Mishnah, l'époque du Talmud. Donc c'est extrêmement précis. C'est-à-dire de la même façon que quand tu prends une page de Gemara, Il n'y a pas une lune en plus, une lune en moins. Et s'il y a une question qui est posée, il faut comprendre ce qu'elle veut dire. S'il y a une réponse, il faut comprendre ce qu'elle veut dire. Et s'il y a deux réponses, il faut comprendre ce qu'elle veut dire. De la même façon, le texte de la Haggadah est une extrême précision. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur un petit paragraphe de la Haggadah, tout petit paragraphe, le paragraphe des quatre enfants. On va essayer de comprendre quel message ce paragraphe a pour nous dans notre vie. Voilà. Donc sans attendre, on va passer directement à la référence numéro 1. Certainement que ce Benita connaît par cœur le texte. Donc référence numéro 1, Kene Ged Arba Abanim Dibira Torah. La Torah parle de quatre fils. Echad Racham, Vechad Racha. Ça vous dit, ça vous rappelle les souvenirs, hein, dans vos écrans vendredi soir. Alors Vechad Racha, Vechad Tam, Vechad Shenoyed Alishol. L'un qui est sage, l'un qui est impie, l'un qui est simple, et l'un qui ne sait pas poser de questions. Alors c'est intéressant, comme vous remarquez bien la phrase, l'un qui est. On ne dit pas, normalement, même en français, on aurait dû dire, il y a quatre enfants, le sage, l'impie, le simple, celui qui peut poser de questions. Mais ce n'est pas comme ça que le texte. Et en hébreu aussi. L'un est sage. L'un est. En hébreu, c'est Echad, Racham. Echad, ça veut dire quoi, Echad? Un. On verra dans la suite du cours pourquoi ce mot Echad à chaque fois. C'est pas une erreur de frappe. Okay? Donc chaque enfant a ses questions. Chaque enfant a son message. Avant d'avancer, je voudrais raconter une anecdote. Une fois, il y avait un papa, hein, et une maman qui avaient plusieurs enfants, qui les ont bien éduqués, et une famille nombreuse. La majorité sont bien sortis, il y en a un qui était en train de mal sortir. Il était déjà à crise d'adolescence, il était en train de mal tourner. Alors le père et la mère vont voir le rabbi en pleurs, il dit, mais on ne comprend pas. On l'a éduqué exactement comme tous les autres enfants. Et pourtant, il est en train de nous échapper. Vous savez ce qu'il a répondu le rabbi? Le rabbi dit, c'est justement votre problème. C'est que vous les avez éduqués comme tous les autres enfants. On n'éduque pas un enfant comme tous les autres enfants. On éduque chaque enfant selon son éducation, selon son caractère.
Sa spécificité.
Ça veut dire qu'en vérité, les quatre enfants qu'on va retrouver aujourd'hui, on les retrouve chez nos enfants et chez nous-mêmes. Alors bien sûr que le rachat, il a une étiquette de rachat. Mais après, on verra dans la suite du cours qu'on a tous un petit aspect sage, un petit aspect impie, un petit aspect simplet, un petit aspect etc. Et il faut parler à ces quatre aspects. Il y a toujours un aspect dominant. Et je vous souhaite que chez vos enfants, l'aspect dominant, c'est l'aspect sage, d'accord? Oui ou non, j'en sais rien. Parce que de toute façon, pour nous, nos enfants sont toujours le sage. Mais c'est la réalité qu'il y a quatre enfants. Et la Torah te dit à ces quatre enfants, il faut leur parler chacun à sa façon. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur les deux premiers. Il y a les autres, mais on va s'arrêter sur les deux premiers. Ok? Qui était le premier? Le sage. Bon. Donc le sage, il pose des questions de sage. Il pose des questions. La question qu'il va poser, c'est pourquoi la fille commande, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça. On va lui répondre une réponse de sage. Maintenant, qui a juste après? L'impie. Alors qu'est-ce qu'il fait l'impie? Et non, justement, c'est pas si simple que ça. Celui qui s'en fout, c'est le quatrième.
C'est pas lui qui s'en fout, il sait ce qu'il doit faire.
Non, justement, voilà, parce que c'est intéressant ta question. On a ici quatre enfants. Le premier, c'est un sage. Bon, c'est un télo, etc. C'est le blond. Okay. Vous connaissez le blond? Ça, c'est le sage. Après, t'as l'impie. Après, t'as le simplet. Bon, le simplet, c'est pas compliqué. Le simplet, il est un peu blé comme ça, tu vois. Comme ça. Et bon, il pose pas de questions, quoi, parce qu'il en a pas. Et bon, le quatrième, il a des questions. Mais non, c'est pas ça. Mais en vérité, il est ailleurs, il est pas là. C'est-à-dire, si je devais dessiner le quatrième, moi, vous savez comment je l'aurais dessiné? Je vais vous dire comment j'aurais dessiné mon quatrième. Moi, je l'aurais dessiné un gosse avec son portable. Bon, c'est l'histoire du CDR, mais je l'aurais dessiné un gosse avec son portable dans la main. Tu sais, des fois, t'as une table autour, t'as un événement qui se passe familial.
Il est ailleurs.
T'as des gosses qui sont là avec leur portable. Il est pas là. Mais il est pas là, le gosse.
Il est dans son monde.
C'est-à-dire que, c'est même pas qu'il t'a posé une question, qu'il veut. T'aider. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ça, malheureusement, ça arrive, ça. Les enfants qui sont absents. Qui ne posent pas de questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions. La question ne démarre même pas, il n'y a pas de questions. Bon. Alors.
C'est pire que le rachat.
Alors, qu'est-ce que fait le rachat? C'est très bien. Vous vous posez une bonne question. Rachat Mahomer. Rachat Mahomer.
Malila Zot, la reine.
La reine Velolo. Oula. Hop, hop, hop. Hein, c'est Maroc, alors.
Alors.
Rachat Mahou Omer, le rachat, que dit-il? Ma voda azot lachem. Qu'est-ce que ce travail pour vous? Donc, d'emblée, il nous attaque. Pourquoi il nous attaque? Parce que, il est venu à table, parce que, on va dire qu'il y a la grand-mère qui est là, et la mère qui est là, et le bon repas, etc. Mais, c'est quoi ce travail pour vous? Vous? Ça veut dire quoi, vous? Ça veut dire qu'il s'exclut. Bah oui. Quand tu dis vous, ça veut dire quoi, vous? C'est-à-dire que moi, je me sens pas concerné. Pour moi, ce que vous faites, c'est has-been. Pour moi, ce que vous faites, c'est pas has-bana, has-been, d'accord. Pour moi, ce que vous faites, c'est du passé. Ah, ouais, je sais pas, je connais pas. En tout cas, le rachat te nargue. Il te dit, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce truc-là que vous faites? C'est quoi ce truc-là que vous faites? Donc, l'achem, velolo. Puisqu'il dit pour vous et non pour lui. Ou le fiche aussi est à ce moment-là, le kafar beika. Il s'exclut donc de la communauté et renie le principe même de la Torah. Veaf ata, toi aussi, à ce rachat, akhe et chinav. Tu lui agaceras les dents. Ve morlo, et tu lui répondras, Bavour ze asa adonai li betitim et mitzraim. C'est pour cela que l'Éternel a fait cela pour moi quand je suis sorti d'Égypte. En d'autres termes, li velolo. À moi et pas à lui. C'est-à-dire, lui, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je lui réponds? C'est pour ce que Dieu m'a fait. Tu me dis, vous? Ben, je te réponds ce que Dieu m'a fait. Sous-entendu, si toi, monsieur le rachat, tu étais en Égypte, tu ne serais pas sorti. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en Égypte, il y a eu
80%.
Enfin, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais en tout cas, une très grosse partie du peuple juif qui n'est pas sorti. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Parce qu'ils disaient, vous. Donc on dit au rachat, ah ben tu fais le malin maintenant sur du CDR. Mais sache que si tu étais là-bas, tu ne serais pas sorti. Bon, quel est le message? Qu'est-ce que tu lui as répondu là? Un partout ou zéro partout là?
La preuve, c'est qu'il est là.
C'est quoi cette réponse là? C'est quoi une réponse bidon?
Ce texte, il a été écrit bien après.
Oui, je comprends. Alors,
comment il peut dire tu n'es pas sorti?
Personne. Non, dis pas tu n'es pas sorti. On dit, si tu étais là-bas, tu ne serais pas sorti. C'est hypothétique.
Comme les autres.
Oui.
C'est-à-dire, en d'autres termes, on lui dit, toi qui veux t'exclure, sache que si tu étais là-bas, bah, tu serais réellement exclu et tu ne serais pas là aujourd'hui.
Oui. Normalement, il ne devrait même pas être là puisqu'il n'est pas sorti.
Bien sûr qu'il est sorti. Parce que lui, il descend de gens qui n'étaient pas rachats. Il est devenu rachat. On est 1000 ans plus tard maintenant.
Okay. Il y aurait un Gilgoul des gens qui seraient sortis éventuellement? La question, non, c'est une question.
Bah, il descend de gens qui sont sortis, non?
Alors voilà, donc ça veut dire qu'il fait partie des gens qui ne sont pas sortis.
C'est un descendant de gens qui sont sortis.
Non, il fait partie des gens qui sont sortis.
Ils sont sortis.
Bah oui, c'est ça.
Après, il est devenu rachat.
Donc, il est devenu rachat.
C'est tout. Donc, il est là.
C'est simple.
Il est sorti.
Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit ici clairement que la Gada nous parle de quatre enfants. Sur les quatre enfants, on va s'arrêter sur les deux premiers. Qui sont les deux premiers? Le racham et le rachat. Le racham et les questions de racham, on va lui répondre ce qu'on va lui répondre. Le rachat, il te nargue. Et comment tu lui réponds? Tu lui réponds pas en vérité. Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce qu'on répond au rachat?
Qu'il serait pas sorti.
Donc c'est une réponse à?
Non, c'est pas une réponse parce qu'il peut pas la comprendre.
Pourquoi t'es énervé?
Il te nargue. Ça veut dire que s'il te nargue, quelqu'un qui te nargue, ça veut dire quoi quelqu'un qui te nargue? C'est quelqu'un en vérité
qui sait quelque chose.
Cherche de l'attention.
Voilà.
On le sait ça. Dans une classe, quand t'as un gosse qui te provoque, c'est pas un gosse qui veut t'embêter, c'est un gosse qui cherche de l'attention.
Il veut ouvrir le débat.
Donc la dernière chose à faire a priori, c'est de rentrer dans son jeu. Et lui dire, ouais, mais toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. T'as rien gagné si tu fais ça.
C'est vrai que c'est pas une.
Tu lui as donné, tu lui donnes du pain. Enfin, tu lui donnes.
En même temps, il faut du répondant avec celui hein, qui te.
Ah, chose, non, il a raison. Et il dit d'un autre côté, quelqu'un qui t'attaque.
Il faut
du répondant, il faut savoir lui dire, hey, tu veux me chercher, tu veux me trouver.
Voilà.
Pourquoi pas? Mais t'as pas répondu à sa question.
Oui, mais bon.
Donc il va continuer à te provoquer tout le temps.
Le roi David, il dit comme ça. Le roi David, il dit, avec un tordu, fais le tordu. D'accord? Et il dit comme ça, avec un tordu, fais le tordu, avec un imbécile, fais l'imbécile. Et il dit d'un autre côté, sache quand il faut te taire. Donc, le rachat, finalement, est-ce qu'il fallait rebondir sur ce qu'il a dit? Hein?
A priori, non.
À quoi ça sert?
Ça sert à rien, de toute façon, il est pas.
De toute façon, t'as rien gagné.
Il écoute pas.
T'attends, il va dire, t'as raison, vraiment, je serais pas sorti. Ah, ben, je fais le choix tout de suite. Ah,
c'est la même chose, il se met à parler de la même chose.
Non, tu vas pas le convaincre.
T'as rien gagné. Pourquoi tu fais ça? Si on a le temps, on expliquera aussi dans le sujet du cours pourquoi les dents. Les dents, il parle des dents. Agace-lui les dents. Quel rapport avec les dents? Ok? Donc ça, c'est la première question. Première question, c'est quoi cette réponse au rachat? On ne lui répond pas à sa question. Ou tu l'ignores, tu ne le calcules pas, c'est une chose. Mais là, Stam lui rentrait dedans, on lui dirait, tu ne serais pas sorti, toi aussi. Bon, d'accord, on n'est pas dans un bar ici. Première question. Deuxième question. Il y a un problème dans ce que je disais tout à l'heure, dans le positionnement, dans l'ordre, le classement des quatre enfants. Ne regardez pas la suite. Si je vous pose la question. D'après vous, si on devait classer les quatre enfants, dans quel ordre vous les aurez classés? Qui aurait mis en premier?
Le Raham,
c'est évident. Ouais. En deuxième, qui vous aurait mis?
Le Tam.
Le Simplet, parce que bon, le Miskin, il est remarqué.
Il est pour rien.
D'accord? Il est pour rien. En troisième, qui vous aurait mis?
Celui qui ne s'est pas questionné.
Celui qui est ailleurs, qui est sur smartphone. D'accord? Et qui vous aurait mis en quatrième?
Le Rachat.
Attends, on va voir.
Deux groupes opposés, là.
Toi, tu dis deux groupes, pour l'instant, j'ai quatre enfants.
Il y a quand même.
enfin, comme ça.
Pour l'instant, j'ai l'un qui est comme ça, l'un qui est comme ça, l'un qui est comme ça, l'un qui est comme ça. Donc il y a un classement. Vous allez dire peut-être le classement correspond à l'ordre de la Torah. Faux. Le classement ne correspond pas à l'ordre de la Torah, puisque dans la paracha, dans les psukim, le verset du Chacham se trouve dans la paracha Vaetranan, alors que le verset des deux enfants se trouve dans la paracha de Bo. Donc en d'autres termes, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ça ne correspond pas à l'ordre de la Torah. Donc il y a une volonté du Baal à Agada, celui qui a composé la Agada, donc à l'époque de la Gemara, il y a une volonté de classer d'une certaine façon, ce qui n'est pas l'ordre de la Torah. La Torah n'a pas classé comme ça. Pourquoi elle les a classés comme ça? Pourquoi elle a classé comme ça le Chacham, après le Racha, etc. Alors, effectivement, c'est ce que dit, alors, Michael a touché à la réponse, ce que donne l'Avoudram. L'Avoudram, il dit pas exactement comme ça. Il parle pas de groupe. Il parle de proximité par rapport à l'affinité. Il dit que finalement, le Racham aura le plus d'affinité avec qui? Avec le Racha. Pourquoi? On va lire ensemble le commentaire du Avoudram.
Il s'oppose.
C'est pas exactement ça. Non, on va lire ensemble. On va lire ensemble, mais vous allez voir qu'il y a une réponse, mais c'est pas si simple.
C'est pas affinité, finalement. Hein,
c'est... j'en dis pas plus. Avoudram. D'accord? Non, affinité, j'ai bien dit le mot. Avoudram. Alors là, Avoudram, c'est un des plus grands commentateurs sur la prière, donc il a commenté aussi l'Agada. Rabbi David Rabbi Yosef Avoudram, qui a vécu en 1340, en Espagne. D'accord? Donc le Avoudram, c'est son nom de famille. Et il dit comme ça. Il dit, Iskiram, Kesedech Hormatam. Les enfants sont classés par leur intelligence. Trila, Chacham. Au début, le Chacham. Veacharav, Racha. Et après le Racha, pourquoi l'impie? Parce que l'impie, il est pas bête. Il n'est pas bête. Pourquoi? Parce qu'il dit, chez Gam ou Chacham, lui aussi il est Chacham. Ou Mitor, c'est pas Marchia, mais il faut délibérément. Mais Chacham Tam, après, on met le simple, chez Eno Chacham Amash, qui n'est pas vraiment intelligent, voilà, vous avez compris. Et là, Yashbok, ça trochma l'ichol, il a un peu trochma quand même. Mais Chacham, chez Noïda l'ichol, et après le quatrième qui n'est pas du tout intelligent. Donc là, vous définissez le quatrième comme celui qui n'est pas du tout intelligent. Donc en d'autres termes, comment on les a classés d'après la Avoudram? Et tu dis, on les a classés par ordre d'intelligence. Le premier, c'est le plus intelligent. Le deuxième, il est aussi très intelligent, mais il fait l'impie. Donc, on dit, bon, on tente en deuxième. Le troisième, il est moins intelligent. Et le quatrième, il est un peu moins intelligent. J'ai envie de dire.
On peut pas.
Attendez, deux secondes. J'ai envie de dire, quel rapport avec l'intelligence?
Exactement.
Est-ce que parce qu'un enfant est plus intelligent, il passe en premier?
Quelle est la nuance entre simple et celui qui s'est pas posé de questions?
Alors, c'est que le simple pose des questions, mais il pose des questions de simplet.
Oui, mais alors l'autre, il ne même pas posé question, il est encore plus simple que ça.
Il est encore plus simple, oui. Il ne s'intéresse pas.
Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins intelligent.
D'après l'Avoudram, il n'est pas intelligent.
Non, mais parce que la notion de simple.
Ça veut dire que d'après l'Avoudram, il te définit le quatrième comme celui qui, si tu veux, et il est simple, et il est désintéressé. Il n'a rien pour lui, quoi. L'autre, au moins, le Tam, il s'intéresse un peu, hein, c'est quoi? D'accord? Au moins quelque chose, tu vois. Mais là, le dernier, il est ailleurs, il est out, quoi. Il est pas là.
Il est décérébré, le
dernier. Non, c'est ça, j'ai dit que
peut-être, tu vois.
Je comprenais pas le en dessous. C'est-à-dire, c'était mais quoi? Bon,
comme ça, dit l'Avoudram. Sauf que.
Pourquoi il dit que c'est le quatrième, il n'a pas d'intelligence? D'après quel critère?
Pas le quatrième.
Parce que le quatrième.
Il a décrété comme ça.
Non, l'Avoudram, il te dit comme ça. Il te dit, ça veut dire quoi chez Noé d'Alichol? Il ne s'est pas posé de question.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent?
Non, attention. Non. Chez Noé d'Alichol, ça veut dire que finalement.
Il n'y a pas de raisonnement.
Il n'y a pas de raisonnement.
Il n'y a pas de construction.
Ça veut dire qu'il voit des événements qui se passent devant lui, mais ça ne lui fait rien. Ça ne l'intéresse pas, ça ne lui parle pas. Il n'y a pas d'intelligence. Oui. Il n'y a pas de réaction. Le simplet, il est simple, il est peut-être niais. Mais il a des réactions. Ça veut dire qu'il réagit. Il pose une question. Il dit, pourquoi vous faites ça? Il y a une réaction. Le quatrième, transparent. C'est d'accord? Il y a des téléphones allumés, là?
Non, j'ai éteint.
Il y a du son, là. Non, si vous avez du son,
non, j'ai éteint. J'ai tout éteint.
Mais si, il y a un autre.
Non, c'est pas éteint. Il y a du son, là.
Mais il n'y a pas eu de son.
On enlève la prise.
J'ai tout éteint, moi. En plus, il ne peut pas y avoir de son, puisqu'en plus, il a branché le casque.
Bah oui. Voilà, il n'y a plus de son, là.
Mais, moi, j'ai pas mis de son.
C'est l'appareil audio.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Je te coupe, toi.
C'est bon. Alors, je reprends.
On entend.
Alors
mais
Ah, c'est un appareil auditif?
Non, mais c'est pas moi qui...
Non, mais c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Ok. Alors, je reprends. Donc, c'est ce que dit le Avoudram. Sauf que, je disais, ok, c'est une bonne réponse. On comprend. Le positionnement, on le comprend. Le classement est intéressant. Mais dans les faits, tout est précis dans la Torah. Donc c'est quand même intéressant que on a placé le premier et le dernier, on les a placés juste à côté. Alors tu m'as dit oui parce qu'il est intelligent. Et alors s'il est intelligent? Qu'est-ce qu'on en a à faire s'il est intelligent? Moi, pour moi, le rachat, tu le mets en dernier. Tu le donnes à la dernière place. C'est-à-dire à la fin, une fois que tu as parlé à tout le monde, tu parles à lui. Pourquoi tu le mets en deuxième? Donc vous voyez, dire par intelligence, d'abord quoi? Parce qu'il est plus intelligent, on le met en deuxième. Quoi, c'est comme ça que ça marche dans la famille? Tu prends le gosse le plus intelligent, tu le mets au premier de la classe et les autres, tu le mets en dernier. Ça marche pas comme ça. C'est des bêtises, ça. ben ils ont été créés comme ils ont été créés par Hachem, on est d'accord. Il n'y a aucune logique de dire, ben écoute, c'est un impie, mais comme il est intelligent, vas-y, on te le fait passer en deuxième. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, il y a vous drame, attention, je vois pas de problème. Mais il nous manque quelque chose. Okay. D'autant plus que, ça je vais aller plus loin, on a ici un commentaire du Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est le retranscripteur principal des écrits du Harizal. Et il dit comme ça, donc le Harizal, c'est Rabbi Yitzhak ben Shlomo Luria, qui est né en 1534, qui est un des plus grands Mekoubalim de Tzfat. Et il dit la chose suivante, il dit, Elu Dalet Banim Romzim le Dalet Kosot. Les quatre enfants font allusion aux quatre coupes du Seder. Ah. Ou Kineget Dalet Olamot, Atzilut, Bria, Yetira, Asiya. Ainsi qu'aux quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetira, Asiya. Le monde de l'émanation, de la création, de la formation et de l'action. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est clair, c'est qu'apparemment, le Harizal nous apprend que les quatre enfants correspondent aux quatre coupes. Alors on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on fait sur la première coupe? On fait le kidouche. Combien de temps dure la première coupe?
Une seconde.
Elle dure 5 minutes, d'accord? On est d'accord?
Oui.
Ok. Combien de temps dure la deuxième coupe?
Bah, jusqu'à la fin du...
La deuxième coupe, elle occupe tout le CDR.
Jusqu'à...
Combien de temps dure la troisième coupe?
Le temps...
10 minutes, le temps du Birkat Amazon.
Ouais.
Combien de temps dure la quatrième coupe?
Pareil, rapide.
Pareil, dure 10 minutes, un quart d'heure, le temps de faire la fin. Donc ça veut dire que finalement, non seulement que le rachat est présent dans la Gada, mais qu'il a raflé la meilleure place.
Il occupe la meilleure place, oui.
Bah oui, parce que tu viens de me dire, le Harizal a dit que les quatre enfants correspondent aux quatre coupes. Donc ça veut dire que le rachat qui est redit en dernière place, d'abord tu le mets en place numéro 2 parce qu'officiellement il est intelligent, et en plus de ça, tu lui donnes la meilleure place, puisque la deuxième place, c'est la place qui correspond à la deuxième coupe, et donc la place qui occupe tout le CDR finalement. Parce que tout le CDR va se passer sur la deuxième coupe.
Mm-hmm.
Donc il y a un message, c'est pas possible, il y a quelque chose. Ok? Donc ça c'est encore une question. Encore une question, après on passe aux réponses.
Enfin, on va commencer de le faire. Entre les enfants et les quatre couples.
Non, comme ça, du Larizal.
Oui, j'ai compris.
Non, Larizal t'explique.
C'est difficile de faire un rapprochement.
Bah, c'est très simple. Il te fait remarquer qu'il y a la notion de chiffre 4. Le sort du CDR, il y a deux chiffres. Les deux chiffres gagnants du sort du CDR, c'est quoi? C'est 3 et 4. 3 et 4. 3 comme les 3 matzot, 4 comme les 4 coupes. D'accord? Et il t'explique pourquoi 3. 3, c'est le chiffre de celui qui donne, enfin, de celui qui donne. 4, c'est le chiffre. Enfin, il y a des explications sur ça. Mais les chiffres clés, c'est 3 et 4. Donc, quand tu as 4 enfants et à côté 4 coupes, il y a forcément une corrélation. Puisque les chiffres clés, c'est 4. 4, 4. Hein, 4, 4. Bon. Donc, reprenons les questions qu'on a. D'accord? Plusieurs questions. D'abord, première question. C'est quoi cette réponse qu'on fait au rachat? Ouais, t'étais là-bas, tu serais pas sorti, hein. T'as là les poupettes. Enfin, c'est quoi cette réponse? Ok? On est d'accord, c'est pas une réponse. Ça marche pas. Deuxième question. Pourquoi le rachat a fait la deuxième place? Pourquoi il n'est pas en dernier? Tu me dis parce qu'il est le plus intelligent, et alors c'est le plus intelligent. D'autant plus que la deuxième place est la place la plus importante de l'Agada. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième place correspond à la deuxième coupe, et la deuxième coupe, c'est la coupe sur laquelle on va lire toute l'Agada.
Mm-hmm.
Okay? Pourquoi? Il y a aussi une autre question, la vérité, c'est que si le rachat, il n'a rien à voir avec l'Agada, parce que tu le déchires, tu lui dis, ouais, toi, si t'es là-bas, tu serais pas sorti. Alors pourquoi on lui donne une place? Prends-le, donne une place. Prends le diable, tu sais, on va parler de toi, on va t'aider, etc. De quoi ça sert? Donc, de tout ce que je viens de dire, il est évident que finalement, le rachat est la star principale du CDR. Donc, maintenant, on va devoir construire le cours dessus. Ben oui, parce que tu vois bien.
La place principale.
La place principale, et que peut-être le challenge principal du CDR, c'est lui.
Parce que c'est lui qu'on peut travailler, pas le haram.
On va voir. Non, tout le monde peut travailler. Le haram aussi. Mais apparemment, vu comment les choses sont structurées, on va comprendre que tout se passe autour du rachat. Pourquoi? Ça, c'est grave, ça, ce qu'on est en train de dire. Normalement, le rachat, on dit, bon, écoute, il est marié avec je ne sais pas qui, je ne sais pas d'où il sort, etc. Je dis, bon, c'est pas grave, sors le CDR, viens, tu viens à la table, on donne une chaise, tu t'assois et tu te tais. Et là, on te dit, non, on est en train de lui donner une grande place. C'est-à-dire qu'il est là, il te nargue, tu l'as, tu lui réponds, tu lui parles, tu lui dis, on va s'occuper de toi. J'ai envie de dire, attends, le gars, il te nargue toute l'année. Il a qu'à faire un tour. C'est pas l'armée du salut ici. Qu'est-ce qu'il croit? Il fait le beau toute l'année, après il débarque, après il fait le malin toute l'année, après il débarque, il fait le beau. Ça marche pas comme ça. Eh ben oui, on va voir dans le cours d'aujourd'hui que quelque part le rachat, c'est celui qui occupe la place principale. Pourquoi? On va expliquer. Alors pour répondre à toutes ces questions, on aura une réponse. Parce qu'une fois qu'on aura compris la place prépondérante du rachat, on aura compris pourquoi il est en place numéro 2, pourquoi il occupe toute la place, et pourquoi la réponse qu'on a donnée est une excellente réponse. D'accord? C'est-à-dire qu'on aura un fil conducteur pour nous permettre de comprendre. On va passer à la référence numéro 3. Alors, tout d'abord, j'ai une question à vous poser. D'après vous, est-ce que le rachat est juif? Est-ce qu'on peut perdre la judéité? Est-ce qu'on peut arrêter d'être juif?
Pas du tout.
Pourquoi?
Il est juif.
Ah, attendez, on va réfléchir ensemble. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit d'avoir de goy à la table du CDR. Mais c'est pas ma question. La question que je pose, c'est est-ce qu'une personne qui est impie, imaginez l'impie, le pire que vous connaissez.
Non, mais c'est un juif, il peut pas.
Attendez,
ça peut arriver.
On va réfléchir ensemble. Pourquoi? D'accord. Imaginez qu'il y a un impie, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a fait toutes les bêtises possibles au monde, envers Dieu, envers son peuple. On a des comme ça. Tout ce que tu veux dire, des gens qui ont été là, qui ont fait du mal à leur peuple, qui ont fait du mal à Dieu, qui ont fait du mal. Tout fait. Et on n'aura pas trouvé de circonstance atténuante. Le vrai impie, le vrai rachat. Parce qu'il faut trouver un vrai rachat. Une fois, il y a une personne qui est partie voir Rabbi Yosef Yitzhak, Rabbi précédent, il lui dit, ah, moi, je suis un rachat. Il dit, toi, t'es un rachat. Il dit, rachat, c'est un niveau, rachat. Pour être, je suis un picoros, c'est un niveau, picoros. Quelqu'un qui a du cran, quelqu'un. Donc, imaginez un vrai rachat, un pro. Est-ce qu'on peut perdre la judéité? Pourquoi?
Parce qu'elle est ancrée. Elle est ancrée dans le.
Alors, quand,
dans
il faut que, parce que c'est faut donner des mots. Pourquoi? Alors, on a fait beaucoup de Tania. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas perdre la judéité?
C'est parti de Dieu.
Alors, en fait, on a une Gemara dans la référence numéro 3, et après, on a une référence dans l'écoute du
Dieu. Mais tu fais au rapport avec les quatre.
Évidemment, par rapport aux quatre enfants.
Non, mais quatre mondes.
Non, les quatre mondes, on verra après. Ça, je ne veux pas arrêter sur les quatre mondes.
Ah, d'accord.
Vous l'avez dit dans le Tania, d'après le Tania,
oui.
Vous avez dit que on est juif par une neshama que Dieu nous donne, qui est propre à des juifs.
Propre à des juifs, mais une neshama apparemment indélébile, une neshama indestructible, voilà. Une neshama qui sera tout le temps attachée à moi.
Permanente.
Pourquoi? Non, il n'y a pas de sauf.
Il n'y a pas de sauf, justement. On avait dit si on mange des choses interdites, on a fait des choses.
Non, c'est autre chose. Ça, c'est une punition qu'il aura, qu'il sera déconnecté.
Il est fâché.
Mais il est fâché, mais il reste toujours juif. Si vous voulez, juif, c'est pas un statut que tu peux.
C'est une condition.
C'est un état de fait. Tu es juif.
L'âme juive.
Tu es juif. Je suis juif. Vous avez raconté, ça fait quelques mois, je crois. Il y a une dame sur Internet, sur YouTube. Je ne sais pas si elle est religieuse ou pas, enfin, peu importe. Et elle fait des micro-trottoirs et elle demande à des gens dans la rue. Elle demande aussi à des penseurs juifs, etc. Elle demande à toutes sortes de juifs, des gens religieux ou pas religieux. Alors on pose une question. Qu'est-ce que c'est pour vous être juif? Très intéressant, elle a des réponses très intéressantes. Alors, tu as des réponses d'un juif religieux, tu as des réponses, bonsoir, tu as des réponses de juifs qui réfléchissent, c'est quoi être juif? Des réponses intéressantes. Être juif, ça veut dire je suis poursuivi, être juif, ça veut dire ça, être juif, ça veut dire ça. Bonsoir. Donc je reprends. C'est quoi être juif? Alors on a ici une Gemara, référence numéro 3. La Gemara elle nous dit Chata Israël Afalpi Shechata Israël. La Gemara elle ramène un texte de Josué dans lequel lorsque Josué est en train de réprimander le peuple, qu'est-ce qu'il leur dit là-bas? Il dit la chose suivante, il dit Israël a fauté. Alors là il faut savoir que Israël c'est pas notre nom. Notre nom, c'est quoi? C'est quoi notre nom initial? C'est les Hébreux, Ivrim. Israël, c'est un nom qui est d'un très haut niveau, c'est une appellation. Donc là-bas, la Gemara pose la question, elle dit, je comprends que lorsque je me comporte comme il faut, on m'appelle Israël. Mais lorsque je ne me comporte pas comme il faut, pourquoi il dit Israël a fauté? En français, ça donnerait l'équivalent de... comment je pourrais dire ça? En français, ça donnerait l'équivalent de le premier de la classe a fauté. Ben, s'il a fauté, le premier de la classe. Comment ça marche? Qu'est-ce que dit la Gemara, cette grande phrase? Afalpi Shechata Israëlou. Même s'il a fauté, il reste appelé Israël. Ça veut dire que l'appellation Israël est une appellation qui te colle à la peau. Dans tous les sens du terme. Tu pourras jamais te défaire. C'est comme si une personne qui disait, mon père n'est plus mon père. Tu peux être fâché avec ton père, Chas Shalom. Tu peux être fâché avec ton frère. Mais tu peux pas dire, tu n'es plus mon père.
Tu es plus mon fils.
Voilà, ou bien quelqu'un qui s'est dit, t'es plus mon fils. Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible. Parce que c'est un état de fait. Tu es mon fils. Je peux dire, je ne te considérerai plus comme. Ça, tu peux dire. Mais tu peux pas dire, tu n'es plus. De la même façon, un juif, il peut dire, je ne me considère plus juif. Bon, ça, il peut le dire. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire même, je me considère chrétien. Dieu préserve. Mais il peut pas dire, je ne suis plus juif. C'est un état de fait. Tu es juif. Tu es né juif, tu es juif. Ok? Donc ça, tout de suite, ça nous donne la couleur par rapport au rachat. Ça nous permet de comprendre que le rachat est juif. Et donc, s'il est juif, c'est-à-dire qu'il fait partie de notre peuple. On ne peut pas se défaire de lui. Il reste là, il est attaché à toi. Pour ceux qui étaient présents au cours de Shabbat, on a donné l'exemple que donne le Talmud de Jérusalem. Il dit que le Ham Israël est comparé à un grand corps. Et dans un corps, quand tu as un membre qui fait mal, c'est tout le corps qui a mal. Même si ce membre, c'est l'organe le plus insignifiant, a priori, même si c'est le doigt de pied, mais ça fait partie de ton corps. Donc quand t'es un juif, même si tu vas dire, ouais, lui, c'est un doigt de pied, lui. Ouais, mais un doigt de pied, le jour où il a décidé de te faire mal, tu fais mal. Parce que, qui a mal, c'est pas dire, bah écoute, c'est le doigt de pied, c'est pas grave, moi je suis à la tête, je suis en haut, je calcule pas. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on forme un grand corps. Et donc le rachat, c'est ton frère. Et c'est pas seulement ton frère. Le rachat, c'est toi. Quoi, c'est moi, je suis pas un rachat. Si, le rachat, c'est toi, fais partie de ton corps. Donc dès que tu vois les choses comme ça, déjà, ça donne une autre perspective. C'est pas je vais aider quelqu'un. Finalement, je vais m'aider, je vais nous aider. Maintenant, avec ça, on va comprendre le texte de la Haggadah. La Haggadah nous dit Echad, Racham, Vechad, Racha. Wahad.
Racham.
Wahad.
Racha.
Alors maintenant, qui est Wahad? C'est qui Wahad? C'est qui Wahad? C'est qui Wahad? Qui est éteint? C'est qui est éteint, normalement? Qui c'est qui est Echad?
Hachem.
Alors voilà comment explique le l'écouté d'Ibourim, Rabbi Yosef Yitzhak. Il dit comme ça, référence numéro 3. Echad racham, deux secondes. Echad racham, vechad racha. Lechol echad, yesh echad. Chacun a le 1. C'est qui le 1? C'est Hachem. Lechacham, yesh echad. Le sage a le 1. Donc il a Hachem en lui. Vegam le racha, yesh echad. Et le rachat aussi a le echad. Qui lui donne ce echad? C'est pas un echad qui est obtenu par ton effort. Et ta echad notim lo milmala. Cet un est donné d'en haut, de Dieu. Share l'école echad et se fait shalokit. Car chacun est une âme divine. Après, elle est devenue impie par son libre arbitre. Ça veut dire que potentiellement, ces deux enfants qui sont nés dans la même famille, ils ont démarré avec le même potentiel. Chacun avait la même neshama, enfin en tout cas un potentiel de devenir tzaddik. Ah, pourquoi un il est devenu racham, l'autre il est devenu racha? Parce que Hachem lui a donné le libre arbitre. Qui te dit, je décide, est-ce que j'utilise ma neshama ou j'utilise pas ma neshama? Donc il dit, veracha ou bifrira tatzmo. S'il est devenu racha, c'est par son libre arbitre. Veoulaï et peut-être notim lo kochot de l'imioter. Dit Rabbi Yosef Yitzhak un grand ridouche. Il te dit, il est possible que le racha a des forces, des capacités plus importantes que le tzaddik, que le raham. Et là seulement, chez En ou Menatzelota, mais il ne les utilise pas. Il a un gros potentiel. C'est-à-dire, c'est un très gros moteur. Mais il ne les a pas utilisés. Raham a une maskil. Maintenant, de l'autre côté, le sage est intellectuel. Et donc, il a besoin d'une protection puissante, étant donné qu'il est le voisin de l'impie. Ça, on va expliquer après, cette notion. La mise en garde au sage. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a compris? Comment ça se fait que l'impie occupe une place importante dans la Gada? Pour l'instant, on ne sait pas, mais ce qu'on a compris déjà, c'est que l'impie est juif. Quoi qu'il arrive, il est juif. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire, imaginez le pire impie que vous connaissez, si vous en connaissez un. Je ne sais pas si on peut trouver de vrais impies aujourd'hui, mais imaginez. D'accord, on te dit, le pire impie que tu puisses trouver, sache que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il est juif. Pourquoi je dis qu'il est juif? On va passer à la référence numéro 4. On a dit Keneged Arba Bani Dibera Torah. La Torah parle de quatre enfants. C'est-à-dire que chaque enfant a sa place dans la Torah. Même le rachat, il a sa place dans la Torah. Parce que la Torah parle de lui. Mm-hmm. Donc si la Torah parle de lui, c'est-à-dire que la Torah te dit, je parle de toi même si tu es rachat. On aurait pu penser, pour avoir le droit d'être cité dans la Torah, il faut te comporter comme il faut. Celui qui se comporte comme il faut, il est cité. Celui qui se comporte comme il faut, il n'est pas cité. Keneged Arba Bani Dibera Torah. La Torah parle de quatre enfants. Ça veut dire qu'on est en train de dire au rachat, sache que nous, on a beaucoup de peine que tu es rachat, mais sache que même en état de rachat que tu es, la Torah parle de toi. Dis, ah bon? La Torah parle de moi en état de rachat? Oui. Pourquoi? On a ici, dans la référence numéro 4, une référence du Mégalé à Moukot. Mégalé à Moukot, c'est un des livres les plus antérieurs de la Kabbalah, d'accord? Qui dit comme ça. Qui dit, Israël, rachetez votre, yesh shishim ribo otiot la Torah. Si vous prenez le mot Israël, on a dit que l'appellation Israël ne nous quittera jamais. On est d'accord? Peu importe qu'on soit impie ou qu'on soit juste, l'appellation Israël ne nous quittera pas. C'est quoi Israël? L'appellation Israël, c'est 5 lettres. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Initial de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. La Torah possède 600 000 lettres. Bon, le compte de 600 000 n'est pas précis. D'accord? Parce que ça dépend, enfin, bien sûr qu'il est précis, mais ça dépend comment on compte. Parce qu'en fait, si vous comptez la Torah, combien de lettres il y a dans la Torah? 300 000 quelque chose. Donc il n'y a pas 600 000. Mais il y a plusieurs façons. Il y a des façons de compter les espaces, et de compter les tagim, plusieurs façons pour arriver à 600 000. Ce qui nous intéresse, c'est que 600 000, ça nous rappelle un autre chiffre. Combien de juifs on est ?
600 000.
600 000 âmes. Donc 600 000, 600 000. Ça veut dire que le rachat a sa lettre dans la Torah. Mm-hmm. Ah ! On a imaginé qu'il y a un Sefer Torah dans lequel il y a une lettre qui s'est effacée.
Dans lequel quoi ?
Un Sefer Torah dans lequel il y a une lettre qui s'est effacée. Quel est le dîn ? Pasoul. Maintenant, attendez, j'ai une question à vous poser. Imaginez que la lettre qui s'est effacée dans le Sefer Torah, c'est quoi ? C'est le même de Amalek.
Cacher
ou pas cacher ?
Pasoul
quand même. Pourquoi ?
Parce qu'il ne faut pas que ça manque.
Parce que le Sefer Torah, il doit être entier.
En plus, ça ne sera plus écrit Amalek, ça sera écrit.
Ça sera plus Alak. Alors. D'accord, Alak. Donc, on est d'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, peu importe la lettre manquante, s'il manque une lettre dans le Sefer Torah, il n'est pas cacher. Donc c'est le message qu'on dit au rachat. On lui dit, écoute Baba, écoute-moi bien, que ce soit clair. Quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, où que tu ailles, hein, voilà.
Hein, voilà. Tu
seras toujours juif. Et si tu n'es pas là, si on efface ta lettre, eh ben, sache que notre Sefer Torah, le Sefer Torah du clan d'Israël n'est pas caché. Je vous ai raconté l'histoire avec Rabbi Yosef Yitzhak et avec Chicago. Je vous ai raconté cette histoire ?
Avec la pègre.
Hein ? Avec ?
La pègre, je sais pas.
Non.
Je sais pas. Chicago.
Je vais vous raconter l'histoire. Une fois, c'était quand le Rabbi Yosef Yitzhak, dont on vient de le citer là, l'écoute d'Iborim, c'était Rabbi Yosef Yitzhak. Mm-hmm. Lorsque Rabbi Yosef Yitzhak est arrivé aux États-Unis, c'était dans les années
30.
Dans les années 30, mais après, il arrivait en 42, mais on devait être en 45-46. Et il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'argent pour construire des institutions de Torah, des yeshivot, etc. Bon, à New York, il y avait de l'argent, mais pas assez. Où il y avait de l'argent à l'époque ? À Chicago. Chicago, ouais. Il y avait des sous. D'accord. Alors, Rabbi Yosef Yitzhak, il a fait appel à un des gabaïm, d'accord, un des percepteurs. Et il a dit, j'aimerais que tu ailles à Chicago pour aller ramasser des sous pour les yeshivas. Il a dit, je t'explique. Quand on va ramasser des sous, on ne fait pas que ramasser des sous. D'abord, on enseigne des mots de Torah. Après, on ramasse des sous. On a dit, j'aimerais que tu ailles particulièrement aller voir Monsieur Intel.
Monsieur Siegel.
D'accord. Monsieur Intel, il a des moyens conséquents. Malheureusement, il fait ce qu'il faut aujourd'hui.
Siegel.
D'accord. Et ce monsieur, tu vas lui rappeler que son grand-père était un chassid de mon grand-père. Tu vas lui rappeler ça. Tu vas lui rappeler que ses sources sont dans la ville de Lubavitch et qu'il a quand même des sources de chassidiques et qu'il faut qu'il revienne un petit peu.
D'accord.
Non, j'ai pas dit ça.
Ralentisse.
Hein, non, qu'il revienne, ça y est, il faut qu'il revienne. Ah, tu la connais l'histoire ?
Non.
Alors, donc il arrive là-bas, à Chicago. Bien sûr, qui est la première personne qu'il est parti voir ? C'est lui. Le rabbi lui a dit, mais tout de suite, il vient. Donc lui, il attend dans le lobby, il attend. Et la secrétaire, elle vient, lui dit, voilà, elle appelle le patron. Et le patron, il dit, donne-lui un chèque. Il donne un chèque. Il dit, non, je veux pas le chèque. Je veux parler au patron. D'accord. Je vais donner un plus un beau chèque. D'accord.
Non,
il veut pas. Je veux parler au patron. L'autre, il est intrigué. C'est un beau chèque en plus, j'ai laissé. Il dit pour le temps près des Shiva et Rabat, je connais, donc il a bien donné. Il veut voir le patron. Bon, le patron, il dit bon, faites-le rentrer. Faites rentrer. Et comme je dis, écoutez, je veux pas votre argent. D'abord, je vais vous parler, etc. Voilà, je vais vous voir de la part du rabbi. Je vous raconte qui était votre père, qui était votre grand-père, etc. Bon, il raconte. L'autre, il a été touché. Et il lui sort l'image suivante. Le chassid sort l'image suivante au donateur. Il lui dit, vous savez, le Ham Israël était comme un grand Sefer Torah. Et dans le Sefer Torah, si une lettre est effacée, le Sefer Torah n'est pas cachère. Là, il lui dit comme ça, il lui dit, parfois, il peut arriver qu'il y ait une lettre du Sefer Torah qui s'efface. Mais il y a un rabbi qui est là, c'est le Moshe Rabbeinu qui est là pour réécrire la lettre. Donc, en d'autres termes, il voulait faire passer l'image suivante que le rabbi m'a envoyé pour réécrire votre lettre dans le Sefer Torah. Et l'autre, ça lui a beaucoup plus d'idées. C'est vrai, il se sentait, ma lettre était effacée, et on m'a envoyé un rabbi pour me réécrire ma lettre, pour me réparer ma lettre, et grâce à ça, la lettre, le Sefer Torah de l'administrateur sera caché. Il était très touché, et il a fait aussi un beau chèque, au Hachem, tout va bien. Il a vu deux donateurs, bon, il arrive aux États-Unis, retour, alors il fait un rapport à Yosef Yitzhak, il fait d'abord un rapport sommaire, un rapport rapide, dans lequel il dit voilà, et il dit, première ligne du rapport, je suis parti voir monsieur Intel, tac, 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 voilà ce que je lui ai dit, et voilà ce qu'il m'a donné. Rabbi Yosef Yitzhak l'appelle en urgence. Il lui dit, bon, le reste du rapport, tu me feras après. Moi, tu vas appeler en urgence à Chicago. Tu vas appeler maintenant en urgence à Chicago. Ça coûte une fortune à l'époque pour appeler à Chicago. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi ? Je dis, j'ai fait une bêtise. Il dit, bien sûr. Il dit, c'est bien que tu es parti. T'as fait, au Hachem, t'as fait une erreur. Tu lui as dit que sa lettre dans le Sefer Torah est effacée. Et que, parler de Tzadikim, parler de Rabbanim, on va réécrire. C'est faux. La lettre d'un juif peut jamais s'effacer. Ah, alors qu'est-ce qui peut se passer? Il lui dit, en fait, ce que tu dois comprendre, tu vas lui dire comme ça. Tu vas lui dire que la lettre d'un juif est gravée. Et qu'est-ce qui peut se passer? Parfois, il y a de la poussière qui vient dessus, qui couvre. Donc, quel est le rôle d'un rabbi? C'est de dépoussiérer. Mais quand tu vas dépoussiérer, qu'est-ce que tu vas découvrir?
La lettre.
Que la lettre était toujours là. T'as pas recrit la lettre. Donc, en d'autres termes, le message est très important. Il voulait lui dire, tu vas aller voir ce juif à Chicago, tu vas le rappeler, et tu vas lui dire, ta lettre n'est pas effacée. Ta lettre est toujours là. Mais il suffit juste de la dépoussiérer pour la faire apparaître. Et c'est comme ça qu'on doit avoir un juif. Le plus impie que tu puisses connaître, tu dois te rappeler que, potentiellement, il a tout déjà en lui. Seulement, il faut le dépoussiérer. Il y a aussi un exemple qu'on amène souvent en Chassidoute, c'est un diamant. Imaginez un diamant qui était dans la boue, etc., qui est tout sale. Ok? Qu'est-ce qu'on fait?
On le polie.
On va le polir. Maintenant, tu vas le polir. Tu vas le polir. Et il va commencer à briller. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah, t'as vu? Maintenant que je l'ai poli, il commence à briller. C'est faux. Le diamant, il a toujours brillé. Seulement, il y avait une poussière qui l'empêchait de voir sa lumière, sa brillance. Mais sa brillance était toujours là. Donc, le message est très important. C'est-à-dire qu'un juif, quoi qu'il arrive, il a toujours une neshama en lui. On peut jamais enlever la neshama. Effacer, c'est pas possible. Donc, il a rectifié, et l'autre, il a été touché. Et l'autre, Demet, si mes souvenirs sont bons, l'autre,
il a refait un chèque.
Hein?
Chèque.
Je sais pas. Mais non.
Un chèque gravé, là. Il avait, pas qu'il s'efface pas.
Il avait été touché parce que la vérité, c'est vrai, ça l'avait touché quand on lui avait dit ta lettre est effacée. Quand on lui dit ta lettre est effacée, ça veut dire t'es out, t'es dehors. On peut te récupérer, mais t'es dehors. Et là, quand on lui dit écoute, ta lettre n'est pas effacée. Elle est là, mais elle est poussiérée.
Éternie.
Elle est ternie. Il faut la dépoussiérer, c'est autre chose. Donc vous voyez, on reprend ici. C'est quoi Israël? Chaque juif a sa lettre dans le Sefer Torah. Même le rachat. Même le rachat en tant que rachat. C'est pas on dit au rachat, écoute, le jour où tu vas te ranger, tu auras ta place dans la Torah. On dit, tu sais quoi? Même en tant que rachat, t'as ta place dans la Torah. Ça nous fait de la peine que t'es comme ça. Mais la Torah, elle te dit, écoute, il fait partie de notre peuple.
Il a la poussière, celui-là.
Il a la poussière, il est là. Mais il est là. Il fait partie de notre peuple. D'accord? Et donc, c'est la lettre Echad Racham v'Echad Racha. Et donc, en d'autres termes, alors je vais aller même plus loin que ça. Je vais faire à l'oral, mais est-ce que d'après vous, le même de Amalek dans le Sefer Torah est moins kadosh que le même de Moshe?
Autant.
Même Gdusha. Même Gdusha. Même, hein, même, sans faire de jeu de mots. La même. Pourquoi c'est la même? Parce que c'est un ensemble, c'est le Sefer Torah. De la même façon, chaque juif a sa lettre dans le Sefer Torah. Tu vas dire, mais attends, lui, tiens, laisse tomber, c'est un bidon celui-là. Il est pas, t'es pas plus kadosh que lui.
Enfin, le même, il préfère être dans le Moshe que dans Amalek.
Ça, c'est une autre question. C'est
le même lui-même.
Ça, c'est une préférence. Mais c'est pas plus kadosh ou moins kadosh.
Pourquoi tu me mets dans Amalek?
Keneged, Arba'a, Banim, Dibera, Torah. La Torah parle de quatre enfants. La Torah. C'est-à-dire que chacun a sa place dans la Torah. Et il est pas plus kadosh ou moins kadosh. Ok? Bon. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi la Torah a positionné le Racham à côté du Racha. Maintenant qu'on a compris tout ça, on a compris que le Racha est un gros dossier. Le rachat est un gros dossier. Le rachat est une personne de laquelle il faut s'occuper. Maintenant, on va comprendre pourquoi, on va tourner la page. On va comprendre pourquoi le racham est passé à côté du rachat. Nous avons en fait un double enseignement, référence numéro 5.
Tu ne fais pas référence à tout ce qui est...
Hein?
Tout ce qui est...
Si, je fais.
Non.
Je suis à l'oral.
Non, mais Assilou, tout ça, tu ne fais pas trop...
Ah, parce que Assilou, elle a besoin d'une grande lumière. Ah, voilà. D'accord. Le rachat a besoin d'une grande lumière. Alors, on y va. Non, parce que j'ai envie d'arriver à la fin. Donc, la rachat Omrim, référence numéro 5. La rachat Omrim. Pourquoi le sable, maintenant qu'on a compris que le rachat fait partie de notre peuple, il fait partie de la famille, il fait partie de mon corps, il fait partie de moi. Je peux pas me détacher de lui. On va comprendre pourquoi le racham et le rachat sont placés l'un à côté de l'autre. Voilà. Vous êtes le racham, moi je suis le rachat, comme ça on est tranquille. Alors, la rachat omrim, au rachat nous disons,
tout l'inverse. Hein.
Chez Loï Paul Berucho.
Pourquoi l'inverse?
D'accord?
T'as compris,
hein. L'impie ne doit pas se décourager. Kilo avda tigvato. Car il doit conserver l'espoir. Voilà ce qu'on dit au Racha. Le Racha, il dit, tu comprends? Moi, maintenant, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 100 ans. Avec le passif que j'ai, est-ce que je pourrais revenir? Comment je pourrais revenir? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, od lo avda tikvato. Ton espoir n'est pas perdu. Ah bon? Comment ça marche? Il dit, tu sais, à Kadosh Baruch Hu, à côté de toi, il a placé un Racham. Et le Racham, il attend qu'une chose. Il attend que tu tournes vers lui et que tu lui dis, aide-moi. Et dès que tu décideras de l'écouter, il peut t'aider, il peut te ramener, il peut te remettre sur la voie du roi. Seulement, il faut une chose. Echad racham, ve echad racha. C'est quoi le vav? C'est quoi ve echad? Et. Ça veut dire, on dit au Racha, si tu veux revenir, il faut juste que tu comprennes qu'il y a Echad Racham, Ve Echad Racha. Il y a un Racham et un Racha. Ça veut dire que tu dois t'associer au Racham. Et un. Tu dois t'additionner à lui. En d'autres termes, tu dois comprendre qu'il faut l'écouter. Le jour où tu laisseras d'écouter le Racham, tu peux revenir. Tu veux dire, comment je peux revenir? C'est impossible. Tu peux revenir. Donc c'est déjà un message rassurant. Le Racha qui est là, qui dit, mais attends, tu sais avec qui je suis marié, c'est ce que j'ai mangé hier, c'est ce que je veux faire demain, etc. On lui dit, écoute, il y a un Racham à côté de toi. Le Rabbi, il a envoyé des shluchim, il a fait des bêtes rabades, le jour où tu voudras revenir, il y a une adresse. Ça, le vrai. On est Yudel Afnizan, c'est sur l'anniversaire du Rabbi, n'est-ce pas?
Ouais.
Donc, bon, on va dire les Chaim virtuels, il n'y a pas de, désolé. Mais, voilà ce qu'on lui dit. On lui dit, ah, mais si, il y a une boucha, en fait, en bas.
Hein?
Il y a une boucha en bas. Tu veux me chercher David la boucha? C'est la mitzvah, toi, là.
En bas?
Oui, en bas, dans ce frigo.
Quand même, ah oui.
Ouais. C'est caché à l'épaisseur, ça va un peu.
Il reste un fond. Il reste un fond.
Mais bon.
Non, pas, sort pas le whisky.
Bon, premier arrivé, premier servi.
On a besoin de ça.
Hein? Non, mais voilà.
Il faut réveiller Michel, moi.
Michel! Michel, c'est du sérieux! Hein?
Oui, il y en a un qui a réclamé son gros lot 53 jours après.
Hein?
Oui. Ouais. Hein? À 6 jours près, il avait.
On t'attend, David.
Il a réclamé quoi?
C'est une bonne chose. Tout à l'heure, quand tu as parlé du corps.
Il n'y a pas de grand écart quand tu as parlé des
membres et du corps.
Oui.
Il va le passer, il avait gagné 1 million.
Ça nous est tous arrivé.
De quoi?
Ça nous est tous arrivé d'avoir mal à une dent.
David, t'as trouvé quelque chose?
Hein,
c'est grâce à la
personne. Un endroit d'une dent.
J'aurais dû, ma femme.
Ouais.
Et qu'il lui donne au moins une.
Comme un souvenir.
Mais en fait, à 6 jours près, il perdait 1 million.
Celui qui a lui coupé les membres, il a toujours mal. C'est important, le monde n'existe plus. Donc par rapport à tout à l'heure.
D'où tu sais ça, toi? D'où tu sais ça, toi?
J'ai un rabbin qui le dit.
T'as trouvé?
Il l'a dit, mais
tu regardes le.
Ah non,
je ne sais jamais. T'as le mignon, toi aussi.
Ah, Zach, bon voilà, c'est bon ça.
Pas vrai.
On peut y aller avec ça.
Elle est vite avant qu'elle se.
Tu veux pas.
Elle a failli.
Faites passer. Révèle Chaim et Chaim.
Il
y a l'anniversaire du Rabbi ce soir. Faites passer.
Dans la
Fnissan. Désolé, je vous sers qu'un fond.
Non, mais c'est pas grave, elle serait évaporée après si on la laissait comme ça.
Ah bon?
Pour faire qu'elle s'évapore en nous.
J'aurai assez là pour tout le monde.
Juste un
tout petit. C'est fort.
Ah, ça réveille. Merci.
Voilà.
Mais ils en sortent le front. Tiens,
non, c'est bon.
C'est Bono, Boucha? Non. David?
Oui, thank you.
Allez, tout le monde est servi.
Tu arrêtes
avec
ça? J'ai perdu.
Allez. Chaim.
Kadosh Baruch Hu, il nous aide par le mérite du Rabbi. Qu'il puisse passer un bon Pessah. Ouais, bien du frigo. Qu'on puisse se défaire de l'odier de Sarah qui est dans nous. Chaim.
Chaim. C'est bon, une petite goutte.
Ok. Donc, je disais, un double enseignement. Un enseignement pour le Racha, un enseignement pour le Chacham. Pourquoi le Racha a-t-il été positionné à côté du Chacham? Premier enseignement, c'est pour dire au Racha, pour lui dire la chose suivante, pour lui dire « Od lo avda tikvato ». Tu dois conserver l'espoir. Dieu, il t'envoie un Chacham à côté de toi. Le jour où tu voudras revenir, tu pourras revenir.
Mais c'est parce qu'on lui répond dans la Gada.
Attends, après je vais t'expliquer comment on lui a répondu dans la Gada.
Attends.
Pas du tout, justement. Je vais t'expliquer comment tout est dans l'intonation.
Trinsuit les dents.
Ok. Ensuite, bet, b. Et hacham elamdim, le hacham a le devoir, shemutelet ala vachova le shadel arzir koladal le mutav. Le sage a le devoir de ramener tous dans le droit chemin.
C'est vrai.
Même l'impie. Et la shekan ba'atnaï. Shalav lafter, shalachachait vasafelav, shayimush pas minukal minacham vlo le faire. Par contre, il devra bien s'assurer que c'est lui qui influence l'impie et pas l'impie qui l'influence. Ah bah oui, parce que le problème c'est que quand tu fais des copains, après on ne sait plus qui influence qui. Après tu dis non mais je vais sortir avec lui, je vais boire un pot avec lui pour le faire parler, etc. Et après on ne sait plus qui est. On sait
et
plus
après qui, t'offres une boucha et tout. Et
voilà, et après on ne sait pas, qui sort qui. Donc je reprends. Double enseignement. Un enseignement pour le Chacham. Pour le Racha d'abord, pour lui dire, écoute, le jour où tu voudras revenir, tu pourras revenir. Et un enseignement aussi pour le Chacham, pour lui dire, quand tu vois un Racha à côté de toi, c'est pas par hasard. On ne te l'a pas mis à côté de toi pour t'embêter, pour te narguer. On te l'a mis à côté de toi parce que tu dois t'occuper de lui. Mm-hmm. C'est ton rôle de t'occuper de lui. Mais par contre, attention. Tu dois t'occuper de lui. Tu n'as pas le choix. Mais attention. Rappelle-toi quand tu le vois que tu peux devenir comme lui. Alors je vais illustrer ça avec une histoire. Pour expliquer pourquoi plus on est intelligent et plus on a la possibilité de tomber. Gmara raconte, c'est dans la référence numéro 6, mais juste une citation là. Gmara raconte qu'une fois, il y avait un mec qui s'appelait Abaye, je crois, qui marchait, et il était devant une intersection. Il devait aller d'une ville à l'autre, et il voit un homme avec une femme. Maintenant, cet homme et cette femme ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés ensemble, c'est le mari d'un tel et la femme d'un tel. Ils marchent ensemble, ils prennent la route. C'est un peu louche, d'accord. Donc, il décide de les suivre, de loin. Il dit, je les suis de loin, et dès qu'un... Je les arrête tout de suite, d'accord. Non. Toutes les façons, c'est ma direction.
C'est la police privée.
Ouais. On va voir ça comme ça. Donc, il les suit de loin. Il les suit de loin, passe des kilomètres. Après, ils arrivent à une intersection. Et après, l'homme, il prend une direction, la femme prend une direction, il ne s'est rien passé du tout. En fait, alors que moi, je ne sais pas s'ils devraient le faire, c'est une autre question. Mais en tout cas, eux, apparemment, n'avaient aucune à penser, ils ont juste fait la route ensemble. Alors lui, Abaye, était intrigué par ça. Il dit, comment moi, avec toute la Gemara que j'étudie, avec toute la Torah que j'étudie, comment moi, j'ai pu soupçonner que, alors que, Bichal, c'est même pas leur effleurer l'esprit. Est-ce que ça veut dire que j'ai les idées mal placées? Est-ce que ça veut dire que j'ai l'esprit tordu? J'ai soupçonné quelque chose que... Est-ce que ça veut dire que moi, à la place, j'aurais fait ça? Donc c'est grave, ça veut dire. Est-ce que j'ai soupçonné quelque chose que, qu'enfin, ils n'ont jamais eu l'intention de faire? Il est parti voir son maître, Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce qu'il va dire, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan a dit, mais bien sûr. On a une tradition qui dit que kol hagadol mechavero itzro gadol emenu, référence numéro 6. Mm-hmm. Celui qui est plus grand que son ami, son mauvais penchant est aussi plus grand. Ça veut dire que plus tu es grand, et plus ton mauvais penchant est grand. Donc le chacham, s'il est extrêmement intelligent, il a aussi un etzahar en conséquent. Eh oui. Et donc voilà. Donc le chacham doit tout le temps se rappeler deux choses. D'abord, il doit se rappeler que s'il a un rachat à côté de lui, c'est pour s'occuper. Mais il doit se rappeler aussi que le rachat, c'est ce que je peux devenir en potentiel, si je ne fais pas attention. Mmh. Et il doit se rappeler aussi qu'en moi, j'ai un petit racham, un petit rachat. Le petit racham, c'est ce que je suis, et le petit rachat, c'est ce que je suis en potentiel aussi. Alors comment vais-je réussir à dompter, à écraser, à ne pas écouter le rachat qui est en moi? C'est ce que te dit le rabbi. Quand tu vas t'occuper du rachat qui est assis à côté de toi, ça va t'aider à dompter le rachat qui est en toi. Très grand chidouche. Vous me suivez? Mm-hmm. Ça veut dire, je répète, on a positionné le chacham à côté du rachat. Voilà, je mets personne, on met deux, voilà. Le chacham et le rachat. Hein? Chacham, rachat. Pourquoi on a positionné le chacham à côté du rachat? Pourquoi? Plein de messages. D'abord, pour rappeler au rachat que le jour où tu veux revenir, t'as un chacham qui est là, qui va te ramener. Pour rappeler au chacham aussi que si t'as un rachat qui est à côté de toi, tu dois t'occuper de lui. Pour rappeler au chacham aussi, tu vois le rachat, t'es aussi intelligent que lui et tu peux devenir comme lui. Ton intelligence peut t'amener à ça. Fais gaffe. Tu dis, non, mais ça va, moi je suis bien. Non, fais gaffe. Comme tu es grand, tu es peut-être plus intelligent que lui, donc sache que ton Yetzara peut t'amener là-bas. Alors, Chacham, il a envie de dire, attendez, alors dans ce cas-là, si tu me dis que c'est dangereux, dans ce cas-là, je me sépare de lui, je veux m'occuper de moi, et je veux m'occuper du rachat qui est en moi, et le jour où j'aurai réglé le rachat qui est en moi, et ben après, j'irai voir l'autre. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit, non, ça marche pas comme ça. On lui dit, tu sais comment tu vas t'occuper du rachat qui est en toi? Quand tu vas t'occuper du rachat qui est à côté. Quand tu t'occupes du rachat qui est à côté, Hachem, il t'aide à régler le problème du rachat qui est en toi. Et ça, je peux vous dire qu'on le voit souvent dans la vie. Surtout quand on a des actions communautaires. On voit plusieurs fois que le fait d'avoir une action communautaire, ça fait que le Tzahara, il ne te dérange pas. Et dès que tu t'arrêtes, toc, il ressort. Tant que tu es occupé, il n'est pas là. Il est dehors. Il n'est pas là. Pourquoi? Parce que quand tu t'occupes des autres, quand j'aurais dit, bon, puisque tu t'occupes du rachat qui est à côté de toi, donc le rachat qui est en toi, on te laisse tranquille.
Le rachat, il doit s'occuper du racham qui est en lui.
Le
rachat doit s'occuper.
Non, justement, on ne le laisse pas. On le laisse pas. Eh oui, c'est comme ça que ça marche.
Si, il s'occupe du racham qui est en lui, inversement.
Il s'occupe du
racham qui est en lui, inversement.
Donc on a ici un message très important, je pense, un message très important pour nous apprendre l'importance du... Vous voyez, au début du cours de ce soir, on croyait que le positionnement, c'était mignon, le classement, racham, racha, c'est mignon, c'est une histoire sympathique pour les gosses. Mais vous voyez que plus on avance, plus on comprend que c'est pas stable. D'abord, c'est une histoire très sérieuse. Et que le rachat occupe la place principale de la Gada, parce que c'est de lui qu'on parle. L'objectif, c'est de le ramener à lui.
On sera assis à côté.
D'accord. On sera assis à côté. Et aussi, finalement, le racham et le rachat, c'est eux qui font toute la Gada. C'est là que ça se passe. Maintenant, Michael a posé une question. Il a dit, mais Mendy, c'est très beau le commentaire que tu nous dis, mais ça rentre pas dans les mots de la Gada. Parce que dans les mots de l'Agada, quand on voit la réponse qu'on fait au rachat, on a l'impression qu'on le jette. On le met dehors. Après, pratiquement, on lui dit, écoute, la porte est là-bas. Alors, tu auras à me dire que non, au contraire, on dit, on va s'occuper de toi, c'est pas ce qu'on lui a dit. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, si tu étais là-bas, tu serais pas sorti. Alors, Rabbi explique, tout est dans l'intonation. Tout est dans l'intonation. Effectivement, tel que je vous l'ai traduit tout à l'heure, d'accord? Comment je vous l'ai traduit? Je lui dis, on lui dit, oh, rachat, livre, lolo, pour moi et pas pour toi, t'es là-bas, tu serais pas sorti. Donc, c'est vrai qu'avec cette intonation vindicative, intonation provocatrice, effectivement, là, je le jette. Mais en vérité, c'est pas comme ça qu'il faut le lire. Comment il faut le lire? Ilu hayasham loyanigal. Si tu étais là-bas, tu n'aurais pas été libéré.
Mais, non, tu n'es pas là-bas.
Mais maintenant, tu seras libéré. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre maintenant et là-bas? Référence numéro 8. Kacher amar akadosh baruch hu anochi hashem elokecha. Lorsque Dieu a dit, avant la sortie d'Égypte, on n'avait pas encore reçu la Torah. Mais au don de la Torah, ce qui a changé, c'est que Dieu a dit, anochi hashem elokecha. Je suis l'éternel, ton Dieu. Il l'a dit à chacun de nous. Dieu aurait dû dire, je suis l'éternel, votre Dieu. Pourquoi il a dit, je suis l'éternel, ton Dieu? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été gravé chez chaque juif que qui est ton Dieu, qui est ta puissance, qui est ta force, c'est Hachem. Mm-hmm. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, aucun juif ne sera laissé à l'écart.
Bah donc...
Avant le don de la Torah, on voyait l'homme Israël comme une collectivité, un ensemble. Donc on dit, celui qui veut s'associer à l'ensemble, tant mieux. Celui qui veut s'exclure de l'ensemble, tant mieux pour lui. Il y a un ensemble qui s'appelle le Klal Israël qui sort. Tu veux être avec nous? Tu sors. Tu veux pas être avec nous? Tant mieux pour toi. Ça, c'était avant. Ce qui a changé au don de la Torah, c'est qu'on a quitté la notion de collectivité. C'est pas qu'on l'a quitté, mais on a donné une nouvelle notion qui est beaucoup plus forte, qui est la notion d'individualité. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Anochi Hachem Elokecha. Hachem n'a pas dit, je suis l'éternel, votre Dieu. Et bon, dans l'ensemble, dans la masse, je suis votre Dieu, s'il y en a qui passe, c'est pas grave. Non. Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'éternel, ton Dieu. Voilà. Ça veut dire que il s'adresse à chacun, même au rachat. Il lui dit, je suis ton Dieu. Et je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas. Et ça, c'est la réponse qu'on dit au rachat. On lui dit pas, ouais, t'étais là-bas, tu serais pas sorti. Non, c'est pas ça ce qu'on lui dit. On lui dit, si t'étais là-bas, tu serais pas sorti. Mais maintenant, tu sortiras. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne seras pas laissé à l'écart et tu finiras par sortir. Alors, fais-tu voir. Tu pourras pas, ça te collera à la peau. Ce qu'on espère, la vérité, c'est que on ne tombe pas sur un tyran qui nous rappelle notre judéité, qui te rappelle que t'as un arrière-grand-père qui est juif. D'accord, comme ça s'est passé. On espère que ça passe pas par ça. Mais tu peux pas te défaire de ça, ça n'existe pas. On peut pas se défaire. Tant qu'il y a un juif qui est là, Mashiach ira aller chercher un par un. Comme a dit le prophète Ézéchiel là-bas, il dit Ve'atem te louketou les achad echad bené Israël. Les bené Israël, on ira aller chercher un par un. Un par un, partout. Tu veux te sauver dans l'Onululu, on t'enverra un chalier du rabbi là-bas pour aller le chercher. C'est le message du rabbi, on a eu des lefnissens ce soir. C'est le message du rabbi. Donc vous voyez comment tout est dans l'intonation. Si tu dis au rachat, ah, t'étais là-bas, tu serais pas sorti. Non, c'est pas comme ça que tu dis. Parce que vous voyez bien que quand tu reprends le contexte, tu vois bien que toute la Agada est construite sur le rachat. Et le rachat, finalement, s'il est provocateur comme ça, il cherche l'attention. Donc il faut lui parler. Comment tu lui parles? Tu lui dis, écoute, ça va. Tu me dis, ouais, moi je suis passé à Asbin, c'est pas chez vous, etc. Je dis, écoute, quoi qu'il arrive, tu fais partie de notre peuple. Non, je suis pas obligé de lui dire comme ça. Mais dans ma tête, je sais que quoi qu'il arrive, il fait partie de notre peuple. Donc, il y a rien à faire. On peut pas t'amputer. On peut pas amputer un juif. Un organe, on peut amputer, Dieu préserve. Un juif, on peut pas amputer. Fait partie de notre peuple. Et si Dieu préserve, il est blessé, eh ben, il faudra le guérir. Parce qu'on a rien à faire. Il fait partie de notre corps.
Oui, encore faut-il qu'il le veuille.
Ah, c'est, on a dit tout à l'heure. Prira Hofshit, le libre arbitre.
À vous de le convaincre, monsieur.
À vous de le convaincre. Monsieur Benita, vous avez un grand pouvoir de persuasion. Ça vous fait convaincre.
Vous avez du flair, monsieur.
Il n'est pas persuadé du
voilà.
Dans ma chair, il aurait dû.
Donc, il dit comme ça le rabbi. Il lui dit comment on fait. C'est un très bon point ce que vous dites, la quatrième ligne. Valier deshemar im loet noam à Torah. En lui montrant à quel point la Torah est agréable, pour alim bokero la venue chez Bachamaim, on obtient effectivement qu'il se rapproche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, chez beaucoup de gens, la Torah ça fait peur. Ah, c'est le religieux, c'est noir, ça fait peur, c'est austère, c'est angoissant. Mais si tu lui montres le sourire, tu lui montres que la Torah lui amène le bonheur. Tu lui montres que la Torah c'est bien, que la Torah c'est sympa, que la Torah ça va lui amener le bonheur dans sa vie, avec sa femme, avec ses enfants. C'est une autre Torah que tu lui montres. Ne viens pas le voir en lui disant, écoute, fais le Shabbat ou sinon tu seras lapidé. C'est pas comme ça qu'on parle à quelqu'un. C'est pas comme ça. C'est, d'abord, c'est une halakha qui existe, mais c'est pas comme ça qu'on parle.
D'abord, c'est vrai.
D'accord, d'abord, c'est vrai. Non, c'est vrai, en plus. Mais c'est pas comme ça. Le rabbi dit comme ça. Le rabbi dit, il y a des choses qu'on dit, des choses qu'on dit pas. C'est pas comme, on parle pas comme ça à quelqu'un.
On dit que tu seras pas lapidé, mais pas maintenant.
Bon, tu parles pas comme ça. Tu lui dis pas que tu seras lapidé. Tu lui parles, tu lui montres la beauté de la Torah. Montre-lui la beauté du Shabbat. Invite-lui un repas de Shabbat. Ah, vous savez, quand je reçois les appels pour le, vous savez, quand je reçois les appels pour le CDR. Là, maintenant, je reçois beaucoup d'appels pour le CDR. Oui. On s'attend à près de 80 personnes dans Tachem. Et bah, au Hachem. Quand on reçoit les appels, il y a des gens, juste pour montrer à quel point il y a des gens qui sont loin. Il y a des gens qui t'appellent et qui te demandent et qui te disent c'est quel métro. Maintenant, je sais pas si t'imagines. Ça veut dire, dis bonjour, monsieur le rabbin, c'est quel métro. Maintenant, peut-être tu me dis, il sait pas qu'il y a un endroit pour prendre le métro. Mais le problème, c'est que cette année, c'est vendredi soir. Bah ouais, c'est-à-dire que le gars, il est complètement à côté de la plaque. Et en plus, il y en a qui me sort, il dit, mais à quelle heure ça va finir? Parce que je me rappelle, l'année dernière, j'ai pris très bon, revenez-moi, je suis là, j'ai explosé, tu vas bientôt. Tu dis rien? Sûr, tu dis rien. Ah oui. Alors, tu l'expliques, d'abord, première question, je vois où vous habitez. Parce que je les ai vus vers le chalière le plus proche. Ouais. Non, maintenant, t'as des gens qui habitent dans le coin. Ils peuvent venir à pied. Mais ils te posent la question, quel métro?
Par contre, ils prennent le métro.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens sont très très loin. Alors, comment tu vas l'accueillir? Tu vas dire, non, interdit, c'est un sourd, etc. Oui. Non, c'est pas comme ça qu'on fait.
C'est difficile de leur dire ça. C'est très
tu bien. Lui montres le charme de la Torah. Ça veut dire que quand il va arriver, tu lui sors ton plus beau sourire.
Viens d'abord, viens.
Et tu lui montres, et tu dis à tes enfants, et tu dis à ta femme, et tu dis à ton kahal, tu leur dis, efforcez-vous d'être les meilleurs, vous puissiez.
Quand tu donnes 4 coups de
parce qu'on a ici des gens.
Il n'y a plus de métro.
On a ici des gens. Ah. D'accord? On a ici des gens.
J'ai oublié que ça existe.
Et je vais vous dire, c'est des gens qu'on voit une fois par an. Que même qui pour, je les vois pas. Des gens qui habitent le quartier. Non, qui habitent le quartier. C'est des gens que tu vois une fois par an. Il vient pour le CDR. Donc on te dit, comment tu rapproches un juif comme ça? D'abord, c'est pas un impie, évidemment. Un impie, c'est un mot qui est inadapté, évidemment. Mais comment tu rapproches un juif comme ça? Tu lui montres Noram à Torah. Tu lui montres la douceur de la Torah.
La beauté
de la Torah.
Le sucre.
Et c'est comme ça que tu... La Torah est agréable. C'est comme ça que tu le rapproches. Donc vous voyez... On dit pas au rachat, ouais, t'aurais pas été libéré. Non, on lui dit, écoute, là-bas, t'aurais pas été libéré. Parce que là-bas, à l'époque, justement, c'était collectif. Donc celui qui s'associe pas au peuple, il est dehors. De nos jours, c'est plus comme ça. De nos jours, c'est individuel.
Il faut aider tout le monde.
Donc, tu dois sortir. Maintenant, je termine avec ça. On va terminer à l'oral. C'est que le rabbi dit qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un cinquième enfant.
Ah oui, celui qui voyage.
Non.
Celui qui n'est même pas à la table.
Le cinquième enfant, celui qui n'est même pas à la table du CDR.
Il est en Inde.
D'accord. Il est pas là. Il est pas là. Pourquoi il est pas là? Parce que ça ressemble pas à qui. L'autre, celui qui était sur son smartphone devant toi, au moins il est là sans être là.
Il est en endroit.
Mais au moins il est là sans être là, mais il est là.
Il est en endroit où il y a pas de chalia.
Mais t'en as un que le soir du CDR, il est pas là. C'est-à-dire c'est pas qu'il est là et qui te nargue, c'est pas qu'il est là et qui t'ignore, c'est pas qu'il est là et qui fait le simplet, c'est pas qu'il est là et qui pose des questions. Il n'est pas là. Il n'est pas là. D'accord? Ça c'est le cinquième enfant. Ça n'existait pas dans le temps. Dans le temps, on n'avait pas d'enfant comme ça. Dans le temps, on avait 4 enfants et le pire c'était le rachat. On s'occupait de lui, on le ramenait. Mais qu'est-ce que tu fais avec celui qui n'est pas là? Ben celui qui n'est pas là, il faut l'inviter. Il faut utiliser tous les stratagèmes, il faut l'amener à la table. Et la même année où le rabbi écrit cette lettre dans la référence numéro 9, justement, qui dit que de notre époque, une époque d'obscurité, il y a malheureusement le cinquième enfant qui n'est pas là, qui n'est pas à la table du CDR, et qu'il faut évidemment ramener. Cette même année, je termine avec une histoire, il y avait un penseur juif qui était venu voir le rabbi, c'était dans les années 60, et qui avait dit, donc c'était pas longtemps après, dans les années 50, je crois que c'était en 56 ou 57, et il y avait un penseur qui était venu voir le rabbi qui a dit, que pensez-vous de l'idée suivante? Comme on vient de la Shoah, et que dans la Shoah il y a beaucoup d'enfants qui sont morts, beaucoup d'enfants, et que le soir du CDR c'est un soir d'éducation, que pensez-vous si on instaurait que dans toutes les maisons juives, on laisse une place vide? Une chaise vide. Alors, évidemment, l'enfant va poser la question, on va dire, mais papa, qui est assis ici? On va lui dire, c'est pour nous rappeler qu'il y a des enfants qui ont malheureusement péri pendant la Shoah. Et que l'enfant, après ça, on explique à l'enfant comment on est persécuté, comment Hachem nous sauve, et comment il faut toujours demander la miséricorde d'Hachem, etc. Enfin, c'est angoissant, mais l'idée est intéressante. C'est vrai que c'est une histoire d'éducation. Le symbole est fort. Chaise vide, c'est quelque chose qu'un enfant peut pas manquer. Même un bébé remarque ça. Même un enfant de 2 ans, il dit, mais qui est assis là?
Le
symbole est fort.
C'est sûr.
Le concept est intéressant. Alors le rabbi, quand il a entendu ça, il a pris très sérieusement l'idée, et il a dit, moi j'ai une autre idée à vous proposer. La chaise que vous avez prévue de laisser vide, pourquoi on n'instaurerait pas que dans cette chaise que vous avez prévue de laisser vide, on va inviter quelqu'un qui ne comptait pas venir au CDR, dans cette même chaise. Et c'est cette même année, ou une autre année en tout cas, que le rabbi a fait cette lettre, une lettre qu'il a adressée à tout le clan d'Israël, le 11 Nissan 5717, dans la référence numéro 9, dans laquelle il dit que malheureusement, il y a en particulier en notre époque très obscure, un autre type de fils, celui qui n'est pas du tout à la tête du CDR, il n'a pas de question, car il n'a aucun contact avec la Torah et les coutumes juives. Donc il n'y a pas de question, Bichlal. Il n'a pas de contact, celui-là. Il faut s'investir pour eux aussi, par don de soi et amour du prochain, car il ne faut oublier aucun enfant juif, et investir toutes ses forces pour le libérer de cette situation et l'amener à la table du Seder. Voilà notre message. Donc, notre message, c'est qu'on doit faire en sorte que chaque juif soit à la table du Seder. L'impie, c'est clair qu'il est là, on va s'occuper de lui, on va le ramener comme il faut. D'accord? Et tu le prends à côté de toi, tu dis, je te lâcherai pas, je te ramènerai. D'accord? Et celui qui est pas là, celui qui est malheureusement, eh ben, tu l'invites. Utilise tous les stratagèmes, on va manger la galette, on va manger une soki, raconte-lui les salades que tu veux. Mais fais en sorte qu'il soit là. Après, tu débrouilles. Mais invite-le à ta lucidaire. Et vous n'avez pas idée à quel point ça attire. La nourriture, ça attire. D'autant plus que le soir du Seder, on va manger la matzah. Premier soir du Seder, on mange la matzah. La matzah, le premier soir du Seder, c'est l'aliment de la Emouna. Et le deuxième soir du Seder, c'est l'aliment de la refoua, de la guérison. Donc, s'il a mis de la matzah dans son corps, tu lui as mis un espion dans son corps qui ne le lâchera pas. Il a une puce GPS qui ne le lâchera pas.
Un cookie.
D'accord. Elle a un cookie, voilà, exactement. Il ne lâchera pas. Il a la traque. Ça veut dire que toi, tu t'assures de l'amener à la table du CDR. Qui voit la beauté de la table du CDR, comment c'est agréable. Il revient. J'ai déjà vu ça, moi. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus à la table du CDR.
Oui, mais c'est difficile parce que ceux qui veulent parvenir, moi, j'ai essayé, il y a quelques-uns.
Ne le faites pas revenir.
J'ai essayé.
Vous l'invitez.
Non, mais de pas avoir essayé.
Joseph, c'est pas comme ça. Il a dit d'abord, Messirut Nefesh. C'est comme Messirut Nefesh. On va s'arrêter là. C'est comme Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire don de soi. C'est-à-dire, des fois, c'est très dur. Tu dis, je sais qu'il y a la voisine du Ketrem, elle est là-bas. Je sais qu'elle fait pas le CDR, mais j'ose pas lui demander parce que moi je me dis je suis pas Lubavitch. Si tu as envoyé ta femme pour l'inviter, je me dis je suis pas Lubavitch, je vais laisser les autres, j'ose pas, j'ai pas envie de faire jeter. Et Bémet, des fois on se fait jeter. Il faut être prêt à se faire jeter. Des fois tu fais jeter, il y en a qui vont faire
rien.
Faut être préparé à ça.
Exactement.
Mais c'est votre fèche. Tu vas, tu invites. Tu dis écoutez, ne voyez pas ça comme un acte religieux. Je vous invite au CDR. C'est l'heure de Pessah. La galette, le vin, etc. Le repas. Bon, un repas.
Il faut être préparé.
Vous n'avez pas idée à quel point ça marche. Voilà. Bon, à méditer. Les quatre enfants et le cinquième. Voilà le message pour nous, pour le CDR. Voilà.
Zach Barou.
Moi, je dois partir, je suis désolé. Je dois partir là.
Moi, j'ai fait.
Avec les gens de partir.
Moi, j'ai fait.
Désolé. Zach Barou.
Alors, Pessah, Kachar et Sameach à tous.
Bon, y'a là, vous voyez qu'est-ce qui se passe.